OK, on va commencer notre 124e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Nous allons voir ce soir la doctrine, le zèle. Alors, on a étudié que l'adoration comportait deux facettes, l'intérieur et l'extérieur, et qu'on comparait la piété à un arbre qui comportait de multiples branches. Alors, jusqu'ici, on a étudié 16, et on continue dans la 17e branche, qui est le zèle. Alors, qu'est-ce que le zèle chrétien? En tentant de le définir, nous constaterons qu'il comporte plusieurs aspects. D'abord, c'est une ardeur d'esprit et une fervente affection pour une personne ou pour une chose. C'est aussi une indignation contre toute chose pouvant heurter ou s'opposer pernicieusement à Dieu ou à l'Évangile. C'est aussi une grâce divine. Alors, ça l'amène comme conséquence de se rappeler qu'on se doit de la demander sincèrement et aussi régulièrement au Seigneur. C'est aussi une véhémence affection pour Dieu et pour sa gloire. Une véhémente affection pour Dieu et pour sa gloire. C'est aussi une recherche sincère pour promouvoir Dieu et sa gloire par tous les moyens légitimes. Et enfin, c'est un amour brûlant, consumant, qui ne peut être éteint d'aucune manière ou réduit par les difficultés. Alors, c'est quand même assez, ça comprend plusieurs facettes. Alors, Cantique, chapitre 8, versets 6 et 7. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. » Une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne la submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les genres. Le premier point, on va regarder les genres de zèle. Alors, bien entendu, comme dans tout ce qu'il y a de vrai, il y a toujours du faux également. Alors, on va regarder le faux zèle. Alors, qu'est-ce que le faux zèle? C'est celui qui s'exerce sans intelligence et sans connaissance biblique. Il est issu de l'ignorance. L'ignorance, par exemple, de la perfection de la justice de Dieu. On lit dans Romains 10, versets 2 à 4, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Alors, vraiment, dans le contexte, c'est Paul qui parle des Juifs, puis il leur dit, il reconnaît qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence. C'est aussi l'ignorance de la rigueur exigée de la loi de Dieu, du décalogue. Deutéronome, chapitre 6, versets 24 et 25. « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Voyez-vous, dans l'intérieur des deux versets, dans le verset 24, on parle de « commander ». Dans le verset 26, on parle de « ordonner », vraiment des termes forts. Il nous dit pas « ça te tente-tu de le faire ?» Il nous commande, il nous l'ordonne. Alors, quand on parle de la rigueur de la loi ou du décalogue, quand Jésus est venu dans le fameux sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, le Seigneur a corrigé plusieurs fausses conceptions que les pharisiens et les juifs avaient quant à leur capacité d'obéir à la loi. On se souvient, par exemple, que Paul prétendait qu'il avait toujours été fidèle à la loi, qu'il avait obéi toute sa vie. Et quand le Seigneur commence à parler avec les Juifs de jusqu'où ça s'étend, les exigences de la loi, là, comme ils ont une petite leçon d'humilité. Matthieu 5, versets 17 à 48. Alors, le but du passage est vraiment de montrer aux Juifs que la loi, non seulement elle s'étend aux actions, mais qu'elle va jusqu'à dans les pensées. En verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raca », mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Ce n'est pas des petites choses qu'il nous dit là. Verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Alors, on voit qu'il étend les exigences du décalogue beaucoup plus large et beaucoup plus profond que les Juifs de l'époque avaient l'impression. Alors, quand on dit le faux zèle, Les gens qui avaient l'impression qu'ils obéissaient à la loi à l'époque, il lui a montré qu'ils n'étaient pas dedans pendant. Aussi, l'ignorance de la justice de Dieu qui était révélée par l'Évangile. Romains 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Là, c'est vraiment le but du verset, c'est pour démontrer que notre justice vient de la justice de Christ. Romains 3, versets 21 et 22. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Aussi l'ignorance de l'absolue indigence de notre condition. Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est Paul qui parle, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Alors, vraiment, Paul comprend que sa justice, ça vaut zéro. Il faut que ça soit la justice de Christ. Alors, c'est vraiment de prendre conscience. Quand on parle de pauvreté, mais on parle d'indigence. L'indigence, c'est encore plus profond que la pauvreté. Le pauvre, il y a un petit peu de choses. L'indigent, il n'y a rien du tout. Alors, c'est aussi l'erreur. Nombre 11, versets 28 et 29. Exemple de Josué. « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Voyez-vous, ici on voit l'exemple de Josué qui avait un faux zèle. Il demandait à Moïse d'arrêter des gens sur qui Dieu mettait son esprit. Alors Moïse dit, « ça ne marche pas de même. » Matthieu 21, versets 15 et 16, on a aussi l'exemple des scribes ici qui nous est présenté comme étant du faux zèle. « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! » Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Voyez-vous, les scribes, ils s'imaginaient qu'ils faisaient un bon geste en disant, « Dis à Hosanna au plus haut des cieux. » C'est comme l'accueil, c'était quasiment une reconnaissance de sa divinité. Puis Jésus dit, « Si eux ne crient pas, les pierres vont crier. » Aussi, le faux zèle peut venir aussi de la tradition. On a l'exemple dans Galates 1, versets 13 et 14, l'exemple de Paul avant sa conversion. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Alors, les traditions, dans son cas, c'était un faux zèle. Il y a aussi, les Écritures nous présentent le zèle de la chair. Luc 9, versets 54 et 55. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Alors, il était animé par un esprit, la chair. Matthieu 26, versets 51 et 52. « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Aussi, le faux zèle de la superstition. Dans Actes 17, verset 22, dans la version Darby, ça nous dit, « Mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vois qu'en toute chose, vous êtes voué au culte des démons. » Alors, c'est quand même une forme de zèle, mais Paul leur dit que vous n'avez pas le zèle à la bonne place. C'est aussi le zèle de la persécution. Je pense que l'Église catholique serait un bel exemple pour nous montrer qu'au cours de l'histoire, ils ont eu un grand zèle justement pour aller combattre les véritables croyants. Philippiens chapitre 3, verset 6. « Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Acte 13, verset 50. « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. » Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Jean 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Quand on regarde l'histoire de l'Église, plus particulièrement les périodes où il y a eu l'Inquisition, ces personnes-là qui étaient des religieux avaient vraiment l'impression que quand ils faisaient mourir quelqu'un, qui était un véritable croyant, qui servait le Dieu, le véritable Dieu. C'est ça que le Dieu dit, Jésus dit ici. « Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » C'est aussi le faux zèle de l'hypocrisie. Jean 12, versets 5 et 6. Alors ici, dans le contexte, c'est Judas. Il dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Matthieu 23, verset 14. Ici, c'est le Seigneur qui parle. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela. » Vous serez jugé plus sévèrement. Aussi, le zèle, le faux zèle de la querelle. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons et les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Je me souviens d'avoir entendu une histoire, c'était au Texas, et il y avait un homme qui était en train de se bâtir un genre de petit empire. Il avait son école biblique, puis il avait différentes affaires, mais à un moment donné, il a dérapé un peu. Puis il y a certaines personnes qui connaissaient, qui l'appuyaient auparavant, qui ont arrêté de l'appuyer. Et sa réaction, ça a été d'appeler le prédicateur, les prédicateurs qui s'opposaient à lui. Ils appelaient le dimanche matin, juste avant que les personnes allaient à l'église, pour les écœurer, comme on pourrait dire. Et cette histoire-là tournait tellement mal qu'éventuellement, il y a une personne qui était, que lui considérait comme son ennemi. Puis la personne avait été dans son bureau pour le rencontrer, pour y parler. Puis lui, il croyait qu'il venait pour l'attaquer. Il a sorti son gun, puis il l'a tiré. Alors imaginez-vous le scandale qu'une pareille affaire peut faire. C'est la folie furieuse. Alors lui, il était zélé, mais pour bâtir son affaire, il est allé jusqu'à au meurtre. Aussi, c'est le faux zèle de l'enthousiasme émotif. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, on voit ça souvent aujourd'hui dans les formes d'évangélisation moderne, Bien souvent, c'est l'idée que c'est un faux évangile qui est annoncé. Les personnes sont enthousiastes au début, un petit feu de paille, ça dure quelques mois, des fois quelques années, et première nouvelle que tu sais, ils sont plus là. Donc, c'est vraiment un zèle d'enthousiasme excessif. Maintenant qu'on a vu toutes les différentes facettes du faux zèle, on va regarder maintenant qu'est-ce que c'est le vrai zèle. Le vrai zèle, c'est un amour authentique, fervent et ardent envers Dieu et Christ. C'est une préoccupation chaleureuse et constante pour l'honneur et la gloire de Dieu et de Christ. C'est celui que tout chrétien doit exercer, comme les Saintes Écritures le disent, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Elle implique la vraie foi en Dieu et en Christ. Quand le Seigneur utilise cette phrase-là, on se mettrait à se réfléchir à ce qu'elle dit. Tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toute ta pensée, ça implique énormément. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Psaume 113, versets 25 et 26. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Tantôt, on parlait de consécration. La consécration, c'est véritablement de prendre tout son plaisir en Dieu. Et ici, il dit, « Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Si on s'examine, nous, est-ce qu'on prend plaisir uniquement dans le Seigneur? C'est à nous de répondre. Alors, ce zèle va se manifester dans tous les domaines de la vie. Le véritable zèle biblique, il va se refléter dans ta vie de tous les jours, dans ta vie matrimoniale, dans ta vie civile, dans ta vie religieuse. Colossiens, chapitre 3, versets 17 et 23. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors ça, une autre chose à appliquer dans nos vies. On fait tous des choses dans la vie, parfois qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire? Il nous dit de le faire comme si on le faisait pour lui et non pour des hommes. Alors, cependant, le zèle biblique exclut certaines choses. Il exclut l'esprit de neutralité en religion. Un roi, chapitre 18, verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Voyez-vous, l'indifférence. La fameuse neutralité. Il était là, il disait, on ne sait pas si c'est l'Éternel qu'on doit servir, on ne sait pas si c'est Baal. Là, Élie les force, il les met au pied du mur, choisissez. Et là, qu'est-ce que le peuple a fait? Ne lui répondit rien. C'était une forme d'esprit de neutralité. On ne peut pas être neutre en religion. Ou on est avec Jésus-Christ, ou on ne l'est pas. On ne peut pas être entre les deux quelque part. Alors, le zèle biblique exclut aussi la négligence et l'indifférence et, bien entendu, exclut la tiédeur. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors, c'est le Seigneur qui parle. Il ne va pas que le dos de la cuillère, comme on dit. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est les objets du zèle. Alors, bien entendu, le zèle doit avoir pour premier objet Dieu lui-même. On a l'exemple dans Nombre 25, l'exemple de Phiné. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. On se souvient qu'est-ce qui est arrivé. Il avait voulu rentrer dans une tente, puis tout le monde, à la vue de tout le monde, pour aller forniquer avec une Moabite, si je me souviens bien. Puis il y a quelqu'un qui est allé, puis il les a transpercés tous les deux avec une lance par le bas-ventre, et le Seigneur a approuvé le geste de zèle de Phiné. Lui-même, il lui a dit que toute sa descendance va avoir des sauvés à l'intérieur de sa descendance. Alors, on voit que des fois, le Seigneur est sévère. Néhémie, chapitre 13, verset 25. Alors ici, on a le contexte de Néhémie qui voyait les gens venir sabbat après sabbat pour faire du commerce avec les Juifs. Et on sait que Néhémie, il n'avait pas que le dos de la cuillère non plus dans le zèle. Il dit, « Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos fils vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » Alors, Néhémie était un petit peu isolé, mais ça. Alors, et pour Dieu, on se doit d'être isolé pour Dieu et son adoration. Jean, chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Bien entendu, Dieu et sa parole aussi, tous les aspects de la parole de Dieu, sa valeur, sa pureté, et le fait de ne faire jamais aucun compromis avec. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc, le premier objet du zèle, c'est Dieu lui-même et sa parole, mais aussi la cause de Christ. Galates, chapitre 4, verset 18, Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que le zèle, ça a un effet stimulant chez les autres. Alors, c'est très intéressant ça, de savoir ça, parce que si le Seigneur accorde du zèle à quelqu'un, automatiquement, le zèle va avoir un effet stimulant chez les autres. Troisième objet du zèle, c'est qu'il doit s'exercer contre le mal sous toutes ses formes. Bien entendu, le mal de la fausse adoration. Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Aussi le mal des erreurs doctrinales. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Quand on regarde les États-Unis, il y a beaucoup d'églises que vraiment considèrent la piété comme des sources de gain. Tu vas regarder des fois certaines émissions, ça dure des fois 30 minutes. Sur 30 minutes, il y a à peu près 15 minutes d'annonce. Envoyez-nous de l'argent. Ils veulent vendre des produits. Alors, ceux qui pensent que la piété est une source de gain, le Seigneur dit que c'est une très grave erreur. Le mal de l'immoralité aussi. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. On se souvient que c'est dans le contexte celui qui couchait avec sa belle-mère. Alors, ils ont bien réagi, et Paul ici leur dit que vraiment, quand vous avez su l'affaire, vous avez agi correctement. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Alors, les objets du zèle, aussi pour nos devoirs. Alors, le Seigneur nous donne toute une série de devoirs dans les Écritures. Alors, il faut avoir du zèle dans nos devoirs en général. Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Alors, on a des devoirs en général, mais aussi on a des devoirs dans la prière. Colossiens, chapitre 4, verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Ici, c'est Paul qui parle, il dit de lui, d'Épaphras, il dit, « Car je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. » Alors, on a l'exemple d'un chrétien qui avait l'ensemble de ses frères qui priaient d'une façon constante pour eux. Et Paul, il dit, « Je lui rends témoignage qu'il a vraiment une grande sollicitude pour vous. » Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Matthieu 18, verset 19. Alors ici, on parle de la prière de frères faite dans l'unité, dans la prière en Église, qui est très puissante. Le Seigneur nous dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alors, on a des devoirs dans la prière, on a aussi des devoirs dans les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, verset 14, « qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » On a des devoirs aussi d'amour les uns envers les autres. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » On a aussi des devoirs de proclamation de l'Évangile. Alors, c'est là qu'on voit que le zèle, on en a besoin. Et le Seigneur nous dit que c'est une grâce. Alors, il faut la demander. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 3. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alors ici, dans le contexte, on peut prendre le mot prophétie dans le sens de proclamer la parole de Dieu. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous remarquez, le verset 19 commence par un verbe à l'impératif, « Allez ». Et le verset 20 commence par un verbe à l'impératif, « Enseignez-leur ». Les deux, c'est des commandements, c'est des ordres. Colossiens, chapitre 3, verset 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui, de l'ensemble de cette petite étude? La première, je dirais, supplions l'Éternel que nous ne confondions pas le faux zèle avec le vrai. Qu'il nous donne d'éviter le zèle issu de toute forme d'ignorance, de l'erreur, de la tradition, de la chair, de la superstition, de la persécution, de l'hypocrisie, de la querelle et du faux enthousiasme. Alors, faire la distinction entre les deux, bien important. Deuxième application, puisque nous avons appris que le zèle est une grâce de Dieu, faisons-nous un devoir de plaider avec force et persévérance auprès du trône de la grâce pour l'obtenir. Plaidons quotidiennement pour cette merveilleuse vertu. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on plie? Est-ce qu'on prie Dieu tous les jours qui nous donne du zèle? Troisième application, exerçons le zèle que nous avons déjà, si petit soit-il, pour glorifier le Seigneur dans son adoration et sa parole. Que la gloire de Christ soit l'objet de toutes nos pensées et de toutes nos actions. Avec zèle, dénonçons et luttons contre le mal sous toutes ses formes. Demandons au Seigneur plus de zèle pour l'exercer dans tous nos devoirs en général, nos devoirs envers la prière, nos devoirs dans les bonnes œuvres, nos devoirs d'amour et nos devoirs d'évangélisation. Alors, on voit qu'on a une multitude de devoirs et ça nous prend du zèle dans tout. Alors, si on ne l'a pas, on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours la même solution, le trône de la grâce. Que l'Éternel soit loué pour le zèle qu'il donne à ses enfants, pour l'exalter, le louer et le glorifier. Amen.
Amen.